Salut les marques, salut les smarts, c'est Ringside, vous écoutez Catch Up, c'est le supplément SmackDown. On va parler cette semaine du SmackDown du 9 août. Et avec moi pour commenter le show, le spécialiste, le patron Hank.
Oh, c'est gentil. Merci, merci. Je tiens à saluer toute ma famille et mes fans.
Voilà. Bravo. Du beau boulot. Donc on va parler SmackDown. Exceptionnellement, ça pourrait devenir une habitude. On va commencer le show par répondre aux questions qu'on a eues sur YouTube dans les commentaires. Alors, ça a été posé il y a quelques semaines. Hein, on est désolé, on est des amateurs, donc des fois on n'assure pas trop. Et donc, on avait une question de Canibour. Qui est aussi connu sur le forum des cahiers du catch, hein, parce que Catch Up c'est le podcast des.
On a tracé son IP en fait.
Catch, voilà, on sait où elle habite.
Il ou elle,
malheureusement, il n'y a pas de photo, alors on ne sait pas. Donc c'est Bad Karma, il y a des chiffres derrière, je crois que c'est 1772 ou quelque chose comme ça. Elle m'excusera ou il m'excusera. Et donc, qui nous demande des questions qui tournent autour du retour de potentiel de superstar dans le show bleu, hein, SmackDown. Donc, elle cite des noms, elle nous demande notre avis hein, sur ces superstars-là. Donc, Shelton Benjamin, pour commencer. Ça aurait été cool, mais alors visiblement il viendra pas de suite hein, parce qu'il est blessé à l'épaule, il a pas passé les tests médicaux.
J'ai vu que alors c'était dans justement le podcast de Fightful, Sean Rossap qui disait que la blessure apparemment c'est un peu dans le même style que ce qu'avait Sami Zayn. Donc du coup ça va l'écarter pendant un bon bout de temps, genre 9-10 mois quoi. Donc voilà. Cher Camille, ne t'attends pas à revoir Shelton, enfin à voir tout court Shelton d'ici, enfin assez rapidement quoi.
En tout cas, ça prouve qu'il y avait quand même de l'improvisation dans le bordel parce que s'ils annoncent des noms qui font des clips pour des mecs qui n'ont pas passé la visite médicale, c'est quand même pas très sérieux. Hein. Mais bon. Ensuite, on nous parle de Jinder Mahal. Donc lui il est revenu.
Bah, il est là, on est tous heureux. Hein.
Voilà exactement. Là c'était vraiment
super content. D'ailleurs Jinder Mahal est super content parce qu'au bout de deux semaines il est arrivé dans main event. Et je parle pas d'un main event de show, je parle du show main event.
C'est ça. En fait ils ont réembauché des gens pour avoir des gens à main event. En
il
fait.
Est super content. Je crois en plus qu'il était contre Sami Zayn. Un truc comme
en
ça.
En plus.
Donc voilà, Sami aussi super content hein, de ne plus être dans.
Il était à main event, il était pas à Raw. Hein. Je me demandais, ma foi.
Non, Zayn était absent de tous les shows cette semaine.
Ouais, on s'est reculé pour mieux sauter. Melina, c'était la manager de John Morrison. Elle a été champion des Divas, je crois, à une époque aussi. Je pense pas qu'elle ait sa place. Enfin, quoique, ils ont besoin de quelque chose quand même, alors. Ouais, je sais pas si elle a les qualités pour rivaliser avec ce qui se fait maintenant dans le roster féminin.
Vous avez recruté des knockouts.
Ouais, voilà, éventuellement. Ou alors il y a pas mal de catcheuses à NXT aussi qui mériteraient leur place. Voilà, puis Melina, elle avait quand même des problèmes pas mal de relationnels dans les backstage. Un peu foutu la merde. Donc je pense pas. Ouais, je sais pas, on verra. Ensuite MVP, MVP ce serait cool, je pense qu'ils auraient pu faire plus avec lui. Maintenant ouais c'est pareil, s'il est pas assez corporate ça va être difficile, pareil qu'il y a des discussions, pareil qu'il demande trop d'argent, ça commence mal pour une négociation. Moi je serais pas mécontent de le revoir, ça faisait partie des superstars qui étaient bien partis pour aller dans le main event et faire des trucs un peu, il était populaire, ça fonctionnait bien, il catchait bien, voilà, moi je serais pas contre son retour. Toi un avis toi Hank?
Sur MVP après je connais pas assez le type, je l'ai plus vu dans des des documentaires sur le network. Je rappelle que je suis finalement assez jeune niveau culture catch, hein. J'ai commencé à vraiment regarder qu'il y a 4-5 ans, donc voilà, je n'ai pas d'attachement particulier.
Particulier à Bibi.
Par contre, je glisse, hein, il y a une rumeur au niveau des filles en ce moment, c'est Mickey James. Qui était dans la liste, donc du coup il y a le www.com qui a fait une liste des free agents les plus hot de votre région, et donc du coup dans la liste il y avait Mickey James, donc qui reparle de le fait qu'il reparle de Mickey James, ça peut indiquer voilà un petit retour qui ferait sûrement plaisir à tous les amateurs de décolleté flambant.
Ma foi. Après, il faut toujours prendre avec les pincettes le www.com parce que pareil qu'ils n'ont pas vraiment de contact avec Vince et tout ça, donc ils font des articles pour faire des articles quoi. Les infos qu'ils donnent sont pas toujours.
En tout cas, celui qui s'occupait, qui était responsable de www.com, merde, comment il s'appelle ?
De Joysides.
Ouais, voilà. Apparemment, il a eu des contacts, lui, il y a pas très longtemps, vu qu'il s'est fait virer.
C'est ça. Lui montrer le chemin de la porte.
Il s'est fait virer la semaine dernière et apparemment, voilà, il était là depuis très longtemps. J'ai pas vérifié, mais ça faisait.
Ouais, c'était le commentateur de la ICW en fait. Et
donc, non, mais je voulais dire au poste, ouais.
Au poste, ouais, ça fait très longtemps. À ce poste-là, mais il a ouvert sa gueule, on n'ouvre pas sa gueule, on critique pas le patron.
Je crois qu'il a pris la manche de Vince au lieu de lui serrer la main, et là c'est parti en drame.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc ensuite Carlito. Carlito, c'est quand même VP, hein, c'est quelqu'un à mon avis qui est parti trop tôt aussi. Il aurait pu encore faire des trucs. Il a un personnage qui fonctionnait vachement bien. Voilà, c'est peut-être celui qui m'intéresserait le plus de revoir, Carlito. C'est le frangin des Starshine d'Acapulco, ouais. Là, ou je sais pas quoi. voilà, Carlito Colon. Ça m'intéresserait bien de le revoir. Donc après on a des gars de l'ICW, Stevie Richards, Tommy Dreamer. Donc, Tommy Dreamer, il est vieux.
Tommy Dreamer, dans l'état où il est, je suis pas sûr qu'il aurait le courage de se remettre en état pour.
C'est ça. Stevie Richards, il devrait pas être très frais non plus. Donc s'ils reviennent les deux là, ça sera pour jobber façon Dudley Boys, voire un peu pire quoi. Ça me chauffe pas trop hein, par contre. Clairement. Je crois qu'il y a une petite suite. Ok, bon, pour le reste, voilà. Voilà ce qu'il en est de nos impressions sur ces retours potentiels.
Et comme dirait René Young, parlons smack.
Parlons smack. Allez hop, c'est parti. Donc, le 9 août, alors j'ai pas non plus la ville de là où ça s'est déroulé le show. C'était en Californie, apparemment, mais ils ont pas affiché, ils ont pas dit. Hein. Du moins, j'ai pas calé. Et j'ai pas trouvé sur internet. Donc voilà, donc un show qui se passe out of nowhere. Et donc ça commence du coup avec Randy Orton, encore une fois, en backstage, comme la semaine dernière un peu. Une nouvelle tentative d'interview pour connaître un peu son ressenti pour son match de ce soir qui sera contre Del Rio, Alberto Del Rio. Sachant que... il est dans la ligne de mire de Brock Lesnar, donc comment il fait pour se concentrer? Il sort son petit speech classique, Viperville, ARKO de la victoire, ARKO pour aller à Viperville, Legend Killer, etc. Del Rio débarque, il lui dit, ton Viperville, c'est un peu comme Disneyland pour moi, voilà, ce soir, tu vas voir. Orton, il lui raconte des trucs, voilà, c'est des attractions, attention à l'atterrissage, Viperville et tout ça. L'autre, il lui dit, je vais te casser le bras ce soir, tu vas voir comment tu te démerdes avec un bras cassé. Ça termine le petit segment avant le générique, et on se retrouve donc avec l'arrivée de Bray Wyatt et Rick Rowan qui débarquent sur le ring, et un petit speech de Bray Wyatt où il explique qu'il est une victime, qu'on lui a tout pris la semaine dernière, mais que c'est un dieu, c'est une divinité, et qu'on ne peut pas tuer on ne peut pas tuer une divinité, on ne peut pas tuer un dieu. Demandez à Dean Ambrose, il a déjà eu affaire à lui, il sait comment que ça se passe.
Ce qui explique toutes les défaites de Bray Wyatt en pay-per-view, hein, ça s'explique comme
c'est
ça.
ça. Voilà, c'est quand on est dieu, même quand on perd, on gagne. Et gagner une fois contre Dean Ambrose, donc voilà, il voit un peu le truc. C'est une télé qui a gagné contre Dean Ambrose, mais ça revient quand même. Il explique que c'est son show, que c'est Bray Wyatt contre le monde, hein, against the world damn world. Et là, Dean Ambrose arrive. Il explique que SmackDown, ça appartient aux fans, hein, aux spectateurs, mais surtout, ça appartient au champion, que c'est lui le champion. Alors là-dessus, Bray Wyatt, il l'invite à venir dans le ring pour se castagner. Ambrose, il se dégonfle, bizarrement. Il dit, je suis plus malin que ça, moi. Je sais que ça te fait plaisir que je monte, Et bam, c'est Ziggler qui débarque avec sa musique. Il bouscule Ambrose, il lui passe devant, il monte sur le ring. Et il, paf, direct, il attaque Bray Wyatt, il rentre dans le tas. Il est super chaud. Mais bon, il se fait casser la gueule un petit peu. Il y a Ambrose qui monte pour l'aider finalement. Maintenant qu'il y en a un dans le ring, on est deux, donc il peut y aller. Et puis bon, ça se castagne. C'est Ziggler qui tente un super kick sur Bray Wyatt, qui est en train de porter un Sister Abigail à Ambrose. Et ben c'est finalement Ambrose qui se mange le super kick. Donc on est un peu, il est un peu, comment dire, perplexe, hein, un peu gêné, il a fait une bêtise. Mais bon, il claque un Sister Abigail, non, il claque, pardon, un super kick à Rowan, je crois, et il se mange un Sister Abigail de Bray Wyatt. Voilà, ils ont pas trop gagné sur ce coup-là. On retourne backstage après la pub. Bon, Ziggy Ambrose se chamaille. Les GM arrivent et puis on leur annonce le tag team match pour ce soir. Ce sera Ziggy et Ambrose contre Rowan et Bray Wyatt, hein, évidemment. Donc ça, ce sera pour le main event.
Voilà.
Voilà, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce petit passage?
Petit passage. ouais,
Ah, et du coup,
bah.
j'ai pas demandé tes impressions sur le truc sur Orton, hein. C'est pas très sympa.
Bah oui, non, je me suis dit que tu voulais enchaîner. Le truc sur Orton, rien de spécial. Je trouvais ça bien de. J'étais content que moi que ça soit qu'ils mettent Del Rio. Bon, on sait qu'il morfle pas mal en ce moment, Del Rio. Voilà, il a plus sa petite page. Il a fait des matchs insignifiants pendant. Bah, depuis qu'il est revenu, à part battre Cena, quoi. Le reste, voilà. Donc du coup, voilà, je trouvais ça sympathique de mettre un peu en valeur Del Rio. Mais pour parler de Ambrose Ziggler contre les Wyatt, bah c'est le truc qu'on attendait. Ça a été bien bouclé, moi ça m'allait très bien. C'était un peu moins, je sais pas comment dire. Ça s'est fait naturellement quoi. Ils l'ont écrit, ils l'ont. C'est pas bien compliqué de faire en sorte de faire un tag team, histoire de faire la bonne vieille, comment? La bonne vieille mécanique. Bon, il y a le challenger, il y a le mec avec la ceinture. On les met en tag team. Généralement une semaine avant le pay-per-view, là c'est 2 semaines avant, mais donc voilà, et puis il y a toujours une trahison à un moment ou à un autre, après ou avant le match, enfin après ou pendant le match plutôt. Donc voilà, non, c'était très bien fait. Le seul truc que je reprocherais, c'est Bray Wyatt qui se contredit un petit peu, qui dit à un moment je suis une victime, mais en même temps non mais je suis un dieu, donc du coup je suis invincible. C'était un peu étrange comme mécanique. Je trouve ça aussi un peu dommage de voir qu'ils se sont réorientés vers la Wyatt Family plutôt que Bray Wyatt tout seul. Bon après Rowan il est correct dans le ring, hein, mais bon, je trouvais ça dommage. Je me suis dit justement au moment du draft, on espérait tous que Wyatt vole de ses propres ailes. Enfin que Bray Wyatt plutôt. Mais On va voir ce qu'ils font avec avec Bray Wyatt, mais ça m'allait très bien comme comme segment.
Ouais, comme opteur, hein, c'était efficace. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Voilà, là, pour là, ils sont pas partis dans des trucs tirés par les cheveux. Là, on est resté sur un truc classique qui fonctionne. Ouais, Bray Wyatt avec Rowan, bah, ça fait du coup, ça fait le gars qui a son garde du corps. Hein, généralement, ça fonctionne bien ce genre de truc. Puis j'ai bien aimé le passage de Ziggler là, qui passe devant Ambrose et voilà, au lieu de parler, lui, il agit. C'est voilà un peu l'inverse, un peu pour répondre à ce que lui disait Ambrose la semaine dernière.
Ah bah
Voilà,
ouais.
non, pour ouvrir un show, c'est efficace. Voilà, bon, on va enchaîner sur la suite avec les American Alpha qui affrontent deux jobbers, Mike Koshy, Mike Vega. Donc c'est un match très rapide. Ce qu'il y a à noter, c'est que avant que le match commence, il y a l'Ascension qui débarque, suivi des Vaudevillains, suivi des Hype Bros. Voilà, trois équipes de qualité. Donc voilà, les trois entourent le ring pendant le match, qui est un squash très rapide. Après, tout le monde monte dans le ring, on se fout sur la gueule et tout le monde se fait botter le cul par les American Alpha, qui s'imposent quand même comme de gros clients. Voilà, qu'est-ce que t'as pensé de
Bah en fait
ce petit segment?
j'ai l'impression que c'est un peu comment? C'est un peu un booking inversé dans le sens où moi j'aurais mis les jobbers la semaine dernière et vaudevillains cette semaine. Parce que si c'est des mecs qui arrivent, tu vas pas les mettre. Enfin, si t'as d'un côté des jobbers, enfin des purs jobbers inconnus et de l'autre côté t'as les vaudevillains, c'est pas le fait d'avoir battu les vaudevillains qui te permet d'accéder à un match contre des jobbers inconnus, quoi, c'est le contraire. Donc voilà, j'étais un peu bizarre. Sinon, c'est. De toute façon, ils ont pas. Ils ont pas de solution, quoi. Tu te dis, ouais, non, mais là, tu te rends compte que les tag teams de SmackDown, elles sont toutes pourries. Oui, mais. Enfin, elles sont toutes pourries. Pas toutes, mais il y en a qui sont correctes, mais. Elles sont pas excitantes, en tout cas. Mais ils peuvent pas les cacher pendant des semaines non plus, quoi. Ils peuvent pas faire genre un seul match de tag team enfin, pas un seul match, mais ce que je veux dire, c'est montrer la même équipe de tag team chaque semaine contre X et Y, etc. Donc voilà, pauvre Zack Ryder, hein, reparti avec les Hype Bros.
Ouais. Il y a cru hein, jusqu'au bout, hein, mais non.
Bon, il a eu son WrestleMania moment, comme vous dites.
C'est marrant parce que si tu regardes sur le papier, en fait, c'est les équipes d'NXT, hein.
Ah oui,
American Alpha, Ascension, Vaudevillain, Hype Bros. Et puis à NXT, c'est pas dégueu normalement la division tag team. Maintenant, ouais, enfin, c'est peut-être.
Alors.
C'est quand même le bas du panier, quoi. À part Ascension à NXT, ils avaient fait illusion, hein. Ils étaient super dominateurs. Ça avait pas été conclu quand ils sont passés dans le main roster.
Je sais pas si la division tag team a vraiment été à un seul moment, enfin dans les deux dernières années, vraiment incroyable à NXT parce que ce qu'on avait au niveau catch, au niveau pur catch, quoi, si on enlève Amore et Big Cass, des vraies bonnes tag team que j'ai vues là ces deux dernières années, il y avait. Bah, il y a les Revival qui sont encore là-bas. Donc American Alpha. Il y a. C'est pas forcément une super tag team, mais moi je les ai trouvés plutôt corrects vers la fin, mais ils sont séparés. C'était Blake et Murphy. À part ça, bah non, on a eu des tag teams de stars individuelles, quoi. Genre, on a eu, je crois, Neville et Balor pendant un temps ou un truc comme ça. Donc voilà, je pense pas qu'elle a jamais été vraiment vraiment excellente la tag team. Il y a eu des, en fait, c'est pas tant que la division tag team de NXT était excellente, mais c'est qu'il y avait des tag team à NXT qui étaient largement au-dessus des tag team enfin du roster principal, quoi.
C'est ça, en fait. Ouais, et puis
Mais il
quand
y
il y
en
avait
avait
les
deux ou trois,
takeovers,
quoi.
Enfin, c'est souvent, c'est souvent American Alpha et le Revival, hein, surtout. Hein. Donc, c'est pas celles qui sont là, enfin, sauf American Alpha, ce qui est bien dommage. Ouais, bah voilà, bon, bah on verra ce que ça donne, s'ils ont prévu une vraie histoire ou est-ce qu'ils vont faire un match
Brian,
les quatre équipes. Brian
a spoilé le fait qu'ils étaient en train de préparer un titre tag team. Et un titre diva. Après, il veut pas en parler. Alors, je sais pas pourquoi il dit que ça va être des titres un peu spéciaux, etc. Il en a parlé dans le Talking Smack qui a suivi ce SmackDown. Mais voilà, il dit que ça a pas encore de nom. C'est pas encore. Va y avoir des paramètres qui vont peut-être être différents. Alors, je sais pas comment ils peuvent vraiment dévier du principe même d'une ceinture tag team ou autre. Ils ont. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'ils feront pas une ceinture pour des tag team à 3, quoi. C'est juste pas possible. Donc, on verra bien, mais il manque là, il en manque. Je dirais qu'il manque genre deux bonnes tag team plus le retour des Usos pour que ça soit vraiment, ça donne vraiment envie. Donc, l'arrivée des Revival et le retour des Usos, je pense que ça serait le meilleur.
C'est ça. Et les Breezango, ils sont à SmackDown aussi.
Et oui, il y a Breezango aussi.
Ouais. Bon, bah, voilà quoi. Ok. Bon, bah on va enchaîner. Au moins que tu t'as rien à ajouter.
Non. Bah de toute façon, la séquence racontait rien de spécial. On sait pas ce qui va se passer.
C'est ça. Alors, on a un segment avec Ronnie Young hein, sur son petit plateau qui reçoit le Miz et Maryse.
Ah oui.
C'était. Alors, ils étaient là pour parler de l'adversaire du Miz qui est Apollo Crews. Donc, il y avait un petit segment sur Apollo Crews. Et en fait, le Miz et Maryse, ils sont en train de roucouler. Ça dérive tout de suite sur le Miz qui dit « Ah ouais, mais en fait, tout ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est bien, c'est que ma femme, c'est la plus belle. Maryse, voilà, elle me fait rêver. » Il grimpe sur la table. En fait, on les retrouve, après le clip, ils sont allongés tous les deux sur la table et ils sont à deux doigts de copuler.
Ils ont vraiment bien joué le truc parce qu'ils sont vraiment symétriquement, en fait, ils se regroupent pile devant la tête de Renee Young.
Voilà. Bon, c'est pas très subtil, mais c'était rigolo.
Moi j'ai adoré.
Voilà, c'est ça. Et puis voilà, Maryse, hein, quand même, c'est bien. c'est encore le Miz dans ses œuvres, quoi. Ça fonctionne toujours hein, pour moi. Je sais pas pour toi comment que ça se.
Bah, de toute façon, on lui a pas. Là, on lui a filé Apollo Crews. Apollo Crews, apparemment, on le pousse toujours pas au cul pour faire des promos. Donc, du coup, c'est le Miz tout seul qui fait son taf. Donc, du coup, il le fait très bien. Après, est-ce que le match va être intéressant? On n'en sait rien, mais c'est peu probable. Je sais pas.
C'est à Apollo Crews de montrer ce qu'il sait faire. Hein. Ouais. Le Miz, lui, il suit toujours l'adversaire qu'il a avec lui. Donc, voilà, il va falloir qu'il se prenne en main, Apollo Crews. Et ça peut être une belle surprise, hein, le match. Hein.
Oui.
Il en a quand même sous la pédale, hein, Apollo Crews. Et puis le Miz, il sait faire un match. Maintenant, c'est sûr que le Miz, c'est dépendant du mec qu'il a en face. Hein, c'est pas lui qui va prendre le match en main, je pense. Hein, mais on verra bien. À moins qu'il fasse une fin pourrie avec Maryse qui se tord la cheville ou un truc comme ça. Mais non, ça peut être un show. Ça peut être un match qui peut être un très 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 intéressant, très spectaculaire quand même. Hein.
Ouais. Je sais pas comment dire. Je pense le match peut être bon, mais en fait, j'ai trop peur de voir Apollo Crews en champion, quoi.
Ça passe ou ça casse, hein. C'est-à-dire que voilà, soit ça va être son title reign qui va le révéler, soit il va faire comme Kalisto et puis il va être champion 2 semaines et puis il se refera prendre la ceinture par je sais pas, Del Rio ou quelqu'un d'autre.
Good Lucha Thing.
Voilà. Lucha, ouais. complètement zoné le pauvre. Alors le Miz, on le revoit un peu plus tard. Il dans le parking il rencontre Scooby-Doo qui est toujours là parce qu'il est pas blessé donc Il sort de son camion, Scooby-Doo, il devait fumer un choke dans à l'arrière. Et puis, Scooby-Doo, il met le miss dans il l'enferme dans le camion et puis il se barre avec la bagnole. Quel enculé, ce Scooby-Doo. Thug Life.
Mais,
voilà.
Non, mais ce qui est fort, en fait, c'est. Vous voyez, quand on raconte le truc, on a l'impression que c'est pas différent de ce qu'on a vu à Raw, enfin la séquence Scooby-Doo. Mais pour le coup, la différence, c'est juste que le Miz, il joue tellement bien l'abruti.
C'est ça.
Et après, quand il est enfermé, il sort la célèbre phrase dans le générique de Scooby-Doo, 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 where are you? Et il gueule, Scooby-Doo, Scooby-Doo. C'est débile, mais
pour le coup là j'ai rigolé. Voilà, donc c'est le Miz quand même, quel talent. Alors, on va reprendre le cours du show. Donc après c'est pas beaucoup mieux. Alors c'est Eva Marie contre Becky Lynch. Donc c'est le remake de la semaine dernière. Où Eva Marie n'avait pas pu catcher parce qu'elle s'était blessée, mais là ça va mieux. Mais elle peut pas catcher ce soir parce que il y a son soutif qui explose.
Ah,
voilà.
Oui.
C'est là. Ça fait rêver. Alors du coup on lui met une serviette pour la cacher parce que pas qu'on en voit trop. Et puis elle retourne backstage. Hein, techniquement elle peut pas catcher. Petit problème technique. Mais cette fois-ci Becky Lynch n'est pas contente. Non, elle veut catcher ce soir. Hein, ça va pas se passer comme ça toutes les semaines. On va pas l'empêcher de catcher. Donc elle fait un open challenge. Qui c'est qui veut venir se battre avec elle? Et c'est Alexa Bliss qui débarque pour son premier match à SmackDown. C'est le jour de son anniversaire. Happy birthday.
Ah, je savais pas ça.
Et voilà, donc du coup on a un match Alexa Bliss contre Becky Lynch qui est ma foi qui est pas mauvais pour le plaisir de Hank. Ils déroulent chacune leur catch, hein. Voilà, Alexa Bliss elle montre un peu ce qu'elle sait faire. Alors elle fait un peu petite, moi je trouve, dans le ring.
C'est pas qu'elle fait petite dans le ring, c'est qu'elle mesure 1m20. Elle est minuscule.
Voilà, alors en heel, hein, c'est une méchante. Elle fait du surf sur la tête de Becky Lynch à un moment donné.
Les coups qu'elle place là, quand elle a un pied sur son dos et l'autre pied sur la tête.
Ça c'est pas mal. Elle a des moves intéressants. Et donc après Becky Lynch elle reprend un peu le dessus. Mais il y a Eva Marie qui revient, lance sa musique, ce qui distrait Becky Lynch. Et puis Alexa Bliss, elle en profite, et puis elle l'assomme, et puis elle a réussi à placer son espèce de moonsault là, un peu modifié, qui est très joli, et du coup elle gagne. Donc défaite de Becky Lynch et première victoire d'Alexa Bliss. Voilà, donc j'ai un joli petit match. Et puis Eva Marie, elle se fait interviewer à la fin. Elle dit qu'elle fera ses débuts la semaine prochaine. Hein. Elle a essayé de raccorder son soutif dans les vestiaires, mais ça a pris trop de temps. Elle s'est fait griller par Alexa Bliss. Voilà, mais elle viendra ses débuts la semaine prochaine. Du coup. Voilà, donc toi, je suppose que ça t'a plu ce match.
Alors,
sans spoiler,
je fais un grand, grand applaudissement. SmackDown a réussi à mieux booker les filles sans ceinture que Raw avec une ceinture. C'était super cool. C'était franchement le gag de Eva Marie qui revient cette semaine un peu modifié et le retour et quand elle revient et la voix off revient en fait quand elle revient et fait maintenant, Eva Marie est prête à se battre. Il relance son introduction quasiment en entier, quoi, jusqu'au moment où elle arrive au ring. C'était super drôle. Alexa Bliss, c'était la personne parfaite si vous suivez un peu le podcast, vous savez que j'aime beaucoup Alexa. Et c'était vraiment, la personne parfaite à mettre à ce moment-là. Le match était vraiment bien sympa, j'ai beaucoup aimé son finisher là, l'espèce de flip retourné qu'elle a fait pour battre Becky Lynch, même si c'était très mal filmé, hein, c'était filmé un peu en gros plan. Donc voilà, très bonne séquence. le gag d'Eva Marie, j'espère qu'ils vont réussir à se réinventer toutes les semaines parce que ouais non mais c'est très très marrant et puis voilà et puis peut-être juste Becky il y a un truc qu'elle fait dans ces matchs là ces derniers temps, c'est genre quand elle s'énerve, elle sautille sur elle-même, etc. Je trouve ça bah, pas terrible. Mais voilà, très bonne séquence.
C'est ça. Becky Lynch qui reste quand même assez populaire hein, auprès du public. Et puis, puis Alexa Bliss qui est parfaite en heel. Hein. Moi j'aime bien. Voilà, ouais, non, pour le coup, autant la semaine dernière c'était pourri, autant cette semaine ils s'en sont bien sortis au niveau des filles. Je suis agréablement surpris. Et puis voilà, pour le coup, l'introduction d'Alexa Bliss dans le roster, ça fonctionne bien. Voilà, bah on est curieux de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Peut-être que Eva Marie perdra le bas, on espère. Alors, on va enchaîner sur le match qui avait été annoncé plus tôt, c'est-à-dire Orton versus Del Rio. Donc c'est parti pour la castagne. Alors le match il est pas mal dominé par Orton. Comment Del Rio, il réussit quand même à un moment donné à placer une clé de bras dans les cordes comme ça sur Delry sur Orton bien qui doit être bien douloureuse. Il y a un joli superplex qui est fait du haut de la troisième corde. Toujours l'avantage de Del Rio, mais c'est quand même Orton qui tient le match. Alors je vais zapper direct à la fin parce qu'il y a rien de il y a rien de phénoménal non plus. Donc ça se termine sur le classique DDT de la deuxième corde là d'Orton. Je crois qu'il est esquivé par Del Rio qui arrive à sortir du ring. Alors après, Orton va le bazarder dans la Timekeeper Arena. Il dégage la table des commentateurs. Il va aller chercher Del Rio. Mais Del Rio, il ressort avec une chaise. Il lui explose la chaise sur la tête. Et donc après, bah, il lui met deux trois coups, il le ramène dans le ring. Là, il brandit la chaise vers le public d'un air de dire regardez, j'ai une chaise. Et il remonte dans le ring. Il veut placer un coup de chaise à Orton, mais RKO out of nowhere. Et donc c'est Orton qui sort vainqueur du match. Voilà, qu'est-ce que t'as pensé de ce petit match?
C'était sympathique. Del Rio, je sais pas si c'est juste, il était un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus dans son personnage ce soir, ou alors c'est juste il est vénère en ce moment et c'est comment? C'est son humeur hors kayfabe, mais il avait l'air bien énervé. Et ouais, non, le match était sympa. Après, c'est vrai que Del Rio, c'est un peu. On a un peu l'impression que tous ces matchs, c'est péter le bras de l'adversaire. C'est un peu son grand truc, quoi, le cross arm breaker. Hein, il fait ça un petit peu en permanence. Mais donc ouais, un match bien sympa. C'est aussi important de donner. Enfin un vrai match à Orton avant Summer Slam.
Voilà. Ouais, on avait un adversaire un peu plus sérieux que je sais plus c'était qui la semaine dernière.
Fandango?
Fandango, voilà, oui, bah voilà.
Et puis ça a duré, ouais, ça a pas vraiment duré. Il y a eu Lesnar qui est arrivé, tout ça. Donc, ouais, non, c'est bien. Et puis là, comment? Du coup, tu disais, oui, non, c'est le RKO qui a fait la victoire. Non, j'ai cru qu'il y avait une disqualification avec la chaise, mais non, c'était le RKO. Donc ouais, non, non, mais très bien. Ah là là,
Okay.
il y a eu un RKO out of nowhere et quelqu'un qui part à Viperville là.
La fenêtre ouverte. Bon bah voilà, hein, oui, Del Rio bien énervé, bien dans son personnage de mec méchant énervé, ça fait plaisir. Voilà, et puis donc Orton qui prend de la crédibilité pour son match contre Lesnar où il va se faire exploser hein, de toute façon. Alors on enchaîne, bah là c'est le moment F-Slater.
Ouais.
On aime F-Slater, hein. Donc, on le voit backstage discuter avec Rhino. Il essaie de négocier avec Rhino. Il lui dit, écoute, moi, j'ai deux gosses. Tu comprends, il faut que j'ai ce contrat, etc.
On rappelle avant, ils ont un match et si Slater gagne, il a son contrat.
C'est vrai, c'est ça. Oui. Voilà, un contrat en jeu pour X-Slater s'il gagne contre Rhino. Donc il lui dit, voilà, moi j'ai deux gosses, et puis un peu plus loin dans la conversation, il lui dit, voilà, pense à mes quatre gosses, tu vois, il faut que, s'il te plaît, voilà, et puis Rhino lui dit, mais tu m'as dit que t'avais deux gosses, maintenant t'en as quatre, voilà, donc c'est, il perd un peu en crédibilité tout de suite, X-Slater. Et donc la négociation elle capote. Hein. Il essaie de vendre cette piscine, si j'ai bien compris. Slater, il dit, écoute, j'ai une piscine chez moi, si tu veux venir squatter.
En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il vient d'acheter une piscine, et en clair, je crois qu'il suggère qu'il a un crédit ou un truc comme ça.
Ah d'accord, ok. Mais c'est une hors sol, alors voilà.
Voilà.
Il n'y a pas la route. Il n'arrivera pas au bout de ses négociations. Un peu plus tard dans le match, juste après la séquence Scooby-Doo, on a du coup ce match Heath Slater contre Rhino, qui est aussi un joli petit match, hein. On a Heath Slater qui peut dérouler un petit peu son catch, mais on sent qu'il est un peu bridé parce qu'au bout d'un moment on voit qu'il sait plus trop quoi faire. Rhino, il fait son petit catch vintage, avec des belles souplesses, c'est assez stiff. Je crois qu'il y a un coup de genou à la volée où Slater arrive quasiment à faire le tomber, mais Rhino s'en sort et donc Slater, il est désemparé, il discute avec l'arbitre, il se retourne et il se prend le gore de Rhino. 1, 2, 3 et voilà, il a perdu le match, il a perdu son contrat. On le voit penaud sur le ring, on est triste pour lui. Et un peu plus tard dans l'émission, on voit Daniel Bryan et Shane McMahon qui ont visiblement un petit dossier dans les mains, et ils sont en train de discuter. Il y aura quand même Heath Slater, il a fait du beau boulot, tu crois qu'on va faire ça, ouais. Et là Heath Slater, il débarque, il les engueule, il dit, ouais, vous êtes des connards, je suis au-dessus de ça, voilà, vous méritez pas, c'est dégueulasse ce que vous me faites, je me cache, je vous emmerde. Et on apprend qu'en fait, ce qu'ils avaient dans les mains, c'était un contrat. Ils voulaient le faire signer, mais du coup, il a loupé sa chance. Il n'aura pas de. Pour l'instant, il va rester un free agent, hein, parce qu'il a été trop chaud bouillant sur cette histoire, le pauvre Slater. Donc l'histoire des Slater continue. Ça t'intéresse, toi, cette.
Ouais. C'est. Je trouve que ça s'améliore chaque semaine. Ça devient de plus en plus. Profond finalement.
Ouais, bah ouais.
Mais la séquence là avec Rhino, un petit truc que t'avais pas précisé en fait dans le dialogue, c'est que Rhino lui, il a dit, je peux pas te faire gagner parce qu'en fait je dois impressionner mes conseillers.
Ah oui, il parle de ses électeurs.
Mes électeurs, parce que en fait Rhino dans la vraie vie. Et un candidat pour je ne sais plus quel poste régional ou je sais pas quoi, oui. Chez les Républicains en fait. Donc voilà, et puis la séquence qui est super drôle, c'est la fin où Heath Slater dit j'ai une piscine et machin, et Rhino il dit c'est une piscine hors sol ou en sol. Et là Heath Slater lui fait c'est une piscine, c'est une très très jolie piscine hors sol. Et là, il fait je peux pas t'aider mec.
C'est ça.
Le truc qui a décidé la décision quoi, elle s'est jouée sur la piscine hors sol ou en sol.
C'était ça joue à pas grand chose, hein, ces choses là.
Les négociations, c'est serré. Elle était géniale, cette séquence. J'ai adoré aussi la façon dont ils ont vraiment joué le jeu. Enfin, ils étaient tous les deux premier degré. Il n'y a pas un moment où ils étaient potaches, etc. C'est un peu la grosse différence entre cette séquence-là, par exemple, et d'autres séquences de Raw où en clair, tous les mecs qui font des blagues, ils ont un petit sourire en coin. Tu vois qu'ils vont sortir leur... leur connerie, que ce soit Gallows et Anderson ou Roman Reigns ou etc. Enfin bon, c'est un petit peu l'humour pour les enfants quoi, Raw, alors que là pour le coup SmackDown c'était un peu de l'humour enfin il y a un petit côté absurde qui est un peu plus adulte. Enfin bref, j'avais
Ah, c'est, ouais. C'est moins lourdingue que ce qu'ils ont fait à Raw, clairement. Non, c'est une bonne surprise là des résultats, enfin de ce qui découle du draft, cette petite historiette là de Heath Slater. Comme quoi, on peut faire des trucs bien même avec des catcheurs de quatrième ou cinquième plan, quoi. Non, c'est voilà, ça c'est un truc que je suis avec intérêt. C'est rigolo.
Voilà, bon, rien d'autre.
Voilà, allez, hop, on passe à la suite. On a une petite séquence où Bray Wyatt motive Rowan, mais bon, on s'en fout.
Ah, il lui demande quand même est-ce qu'il est prêt à mourir pour lui.
Ah
C'était
ouais, il est prêt.
un
Alors,
peu
j'espère. Ouais.
un peu radical.
Ouais. Ensuite, on a le Carmella versus Natalia. La
Voilà.
revanche de la semaine dernière où elles se sont tapées dessus. Donc bon, c'est une longue domination de Natalia, mais ça se termine quand même sur une victoire de Carmella qui arrive à placer sa prise de soumission, qui j'avais jamais remarqué à NXT comment elle était nulle en fait sa prise. Voilà, le match était pas dégueulasse, mais là aussi c'est Natalia qui fait le match toute seule un petit peu. Hein. Et voilà, donc encore où il y a aussi une petite promo pourrie au début de Carmella, comme d'hab, ça fonctionne pas quoi. Voilà, t'as des choses à dire sur ce match?
Non, je
Voilà, ils essayent de
c'est
monter Carmella, mais.
oh là là, mais ouais, non, mais c'est la cata, c'est la cata,
C'est le
c'est la
caca.
catamella. Mais
C'est ça.
non, mais vraiment elle a pas changé. Enfin si, elle a peut-être changé une petite phrase à sa promo de début, mais c'est exactement le même style. C'est ridicule. Enfin bref, ça marche pas seul en fait. C'est vraiment
C'est ça.
le plus gros problème de sa promo et de son personnage, c'est que c'est pas comme si elle se présentait vraiment en fait. Elle se présente, enfin sous-entendu en fait, petite sœur de Enzo et Cass, même si c'est plutôt la femme de Cass, mais dans la vraie vie. Et donc du coup, ouais, non, son personnage ça marche pas. Et puis oui, elle s'est débrouillée pour suivre le mouvement pendant le match. Je trouve pas sa prise de soumission si horrible que ça. Ça va, mais elle est extrêmement, comment dirais-je, irréaliste.
C'est ça.
C'est vraiment genre je fais une pause de gymnaste quoi quand elle fait sa prise de soumission. Mais ouais, il y a du boulot quoi, je veux dire,
C'est ça.
switchez-moi, pourquoi on fait monter Carmella et on fait pas monter Bayley quoi. Alors je veux bien qu'on veuille laisser des talents, mais il y a encore Asuka par exemple à NXT, donc ou Asuka comment on dit,
Aska, Aska, Aska.
Rousseff Machka, non
Rousseff
merde, non.
Maskowska.
Non, voilà, je suis en train de tout confondre. Et donc du coup, voilà. Bon, rien de spécial à dire.
Ouais, voilà. Pas catastrophique,
On
mais
espère que ça va changer
c'est mal
à un
barré quand
moment ou
même.
à un autre.
Voilà. Alors, sur la suite, bon, il y a un petit clip sur la rivalité AJ Styles contre Cena parce qu'ils sont pas là cette semaine, mais bon, il y a rien de nouveau dedans. Et ensuite, on a un petit segment backstage où on a Baron Corbin qui est en train de défoncer Kalisto dans les vestiaires, façon prison, quoi. Amour de prison. Voilà, bah lui, ça a déjà commencé quand on arrive, il est en train de lui péter la gueule et puis ça se termine, il lui a pété la gueule, quoi.
Ah, il lui dit qu'il lui a coûté
Ouais, il lui
le
a
match
coûté le truc
pour
la
la ceinture
dernière fois.
la semaine dernière. Ce qui est
Voilà.
assez faux finalement si on regarde
C'est ça.
le match. Mais bon.
Mais bon, c'est pas grave, faut bien une raison pour se taper dessus quand même. Voilà, bon, bah ça, je pense que c'est. On s'en saura plus la semaine prochaine. sauf si Baron Corbin ne retourne au kebab comme la dernière fois là, où il avait quitté la règle.
J'ai pas compris, c'est quoi le kebab?
Alors, une fois il s'était barré, on l'avait vu, il était dans la rue, il a dit aujourd'hui je viens pas, vous êtes tous des cons, et puis il avait traversé la rue. Alors, je me disais qu'il était parti au kebab, parce qu'on l'avait plus envie pendant 2 semaines. Alors,
allez vous voilà. Faire foutre, j'ai bouffé un kebab.
J'ai m'emmerder avec vos trucs. Voilà. Bon, ensuite, c'est lors du main event. Alors, je sais pas si je vais tout raconter. Donc, c'est Ambrose et Ziggler, hein, comme annoncé plus tôt, contre Bray Wyatt et Eric Rowan. Mm-hmm. Ils seront attaqués tout de suite, hein, les deux gentils, le champion et Ziggler, par Rowan et Bray Wyatt. Je leur raconte le truc alors. Donc donc Ziggler est accompagné hors du ring par Rowan et on se retrouve avec un affrontement Ambrose Wyatt entre les cordes. Après une prise puissante droite de Bray, il tente une clothesline mais elle est esquivée par Ambrose qui rétorque avec une corde à linge à la volée avant de rouer deux coups le nouveau visage de la peur cloué au sol. Le champion place son adversaire dans le coin du ring pour lui administrer de violents coups de pied. Ziggler se tague lui-même. Alors là, ils font un petit concours de beat. T'as vu, c'est moi le mieux. Et puis, ils s'attaquent tous les deux à Bray Wyatt qui avait tenté de riposter. Donc Ziggler ensuite, il riposte avec un dropkick. Il tente un brise-nuque, qui est contré par une violente droite dans la nuque par Bray Wyatt. Ziggler riposte avec un dropkick. Il tente un jumping DDT qui est contré. Une clothesline qui est contrée également. Rowan qui a fait un tag discret quelques secondes plus tôt, le cueille avec une puissante corde à linge depuis le tablier du ring. Là, c'est l'heure de la pub. On retrouve ensuite Ziggler aux prises avec Bray Wyatt. Ziggler est dominé, mais il finit par esquiver une Swanton. Les deux hommes rampent à terre et Ziggy réussit à faire le hot tag. Ambrose déborde Wyatt avec un enchaînement de lariat. Il place son running bulldog précédé d'un running elbow. Il met une pêche à Rowan. Il enchaîne avec une planche à l'extérieur du ring avant d'écraser la gueule du géant sur la table des commentateurs. À son retour dans les cordes, il se fait cueillir par une clothesline de Bray. Compte de 2. On fait le changement avec Rowan qui effectue un splash. Nouveau compte de 2. Coup de poing, écrasement du cerveau. Rowan place Ambrose allongé sur le coin du ring. Il lui administre 2 violents coups d'assommoir. Ambrose se rebiffe, mais il se mange un impressionnant Bigfoot qu'il fait tomber à l'extérieur du ring. Wyatt vient s'occuper du champion, mais il se fait écraser contre la barrière d'insécurité. Ambrose tente une descente du coude, mais il se fait contrer et écraser au bord du ring. On ramène le champion dans le ring, qui arrive à placer un swinging neckbreaker à Wyatt. On fait le tag des deux côtés. Ziggler est en feu, il enchaîne clothesline, stinger splash, brise nuque, jumping elbow, jumping DDT sur Rowan, tout en réussissant à placer une droite au passage à Bray Wyatt. Rowan finit par le contrer avec un coup de pied circulaire, compte de 2, il tente une powerbomb sur Ziggler qui s'en échappe et il place le zigzag, le compte est cassé par Bray Wyatt. Là, Ambrose s'invite dans le ring, il contre une tentative de Sister Abigail, il éjecte Bray Wyatt du ring et il l'achève en effectuant un topette suicidal où il manque de se tuer, il se prend les pieds dans les cordes là. Et de son côté, Ziggler administre un super kick à Rowan, il effectue tomber pour le compte de 3. Et le gain du match. Donc victoire de Ziggler et Ambrose. Le champion remonte sur le ring. Ziggler vient le féliciter. Et contre toute attente, Ambrose lui place un coup de pied dans le bide. Il lui place son Dirty Deeds. Et donc ça se termine sur un champion Dean Ambrose triomphant. Et Ziggler à terre, assommé. Voilà pour ce qu'il en est de ce main event. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon bon Hank?
C'était un très bon match. Moi, j'ai bien aimé. De toute façon, ça marche toujours aussi bien. Wyatt Ziggler et même Wyatt Ambrose, mais surtout Wyatt Ziggler. Bray Wyatt contre Ziggler, je trouve que vraiment ils font des très bonnes choses ensemble. Rien de spécial à remarquer. Il y a eu une bonne dynamique, il y a eu des bons hot tags.
Des hot tags. Avec toujours Ziggler en feu, hein, quand il fait le hot tag, il est bouillant, chaud bouillant.
Ouais, et puis par contre, cette fin me fait me poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'orientation des deux, de Ambrose et Ziggler à SummerSlam. Parce que est-ce que alors c'est un peu le fantasme du fan de catch permanent, le double turn, hein. On en voudrait on en voudrait tout le temps.
C'est ça.
C'est le genre de truc super difficile à réaliser et tout. Mais là, pour le coup, c'est ça que ça me suggère en fait, la fin. C'est-à-dire que autant la semaine dernière, je me disais, ouais, non, mais Ambrose, bon, il le cherche un petit peu dans sa promo, mais il cherche à un peu révéler le vrai. Voilà, enfin, c'est comme je disais, un peu façon psychologue, brutasse psychologue. Mais là. Pour le coup, c'est lui qui lui met un Dirty Deeds. Alors que Ziggler joue le sympa, quoi. Il tapant sur l'épaule. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas en train de voir cette orientation-là? Et en plus, il y a le fait que si vous avez vu. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, mais en fait, j'ai lu beaucoup d'avis sur le Stone Cold podcast avec Ambrose. Et apparemment. Ça s'est pas passé terriblement et Ambrose c'est genre c'est une comment dire c'est un mec qui dit rien dès que ça commence à basculer vers sa vie privée ou vers des choses un peu personnelles, il dit rien. Apparemment,
D'accord.
c'est pas un gars auquel ils font confiance à la WWE pour faire des talk shows ou pour faire des choses comme ça. Donc est-ce que finalement la WWE aurait pas décidé. Bon, ok, Ambrose, en fait, c'est pas comment, ça va pas être un représentant de la WWE. Apparemment, c'est pas son truc, etc. Donc pourquoi on le mettrait pas en heel?
Ouais. Ouais, en même temps. Après, comme ils se décident jamais à avoir des heels clairs et des faces clairs dans le, du moins au niveau du main event et au niveau du haut de la carte, du très haut de la carte des main eventers, ça reste un peu casse-gueule. Faudrait qu'ils se décident vraiment à revenir à cette séparation claire et nette. Sinon, ça va être toujours un peu tiédasse comme ça. Mais c'est sûr que Ambrose, de toute façon, il a une attitude lui pour le coup. Hein. On l'avait déjà vu quand je pense que tu as peut-être vu le Table for Free là sur le table à 3 là sur le network où aussi il est vraiment nonchalant à la limite de l'arrogance
Je crois que je l'ai vu. Attends, il date de longtemps.
ouais, ça doit faire
Ouais,
un an à peu près
je
hein.
l'ai vu.
Et il a quand même cette personnalité là où voilà, c'est le seul qui est pas venu en costard, il a dit moi je m'en fous, je viens comme je suis, de toute façon maintenant je suis une star, ils sont obligés de me laisser rentrer. Voilà, c'est et puis on voit qu'il est assez satisfait de sa carrière, que après c'est normal parce qu'il a vraiment bien géré, mais on sent quand même assez imbu de sa personne et c'est vrai que ça peut peut-être poser des problèmes. Voilà, si dans les talk shows il joue pas le jeu et qu'il, même si je pense qu'il doit être quand même corporate comme il faut, mais c'est sûr pour en faire un top face façon John Cena, ça risque d'être délicat quoi. Bon après, ouais, sur un double turn, c'est comme je
Enfin,
t'ai dit.
pour le coup, ça serait pas. Enfin, je dis double turn. En fait, ça serait juste un turn parce que Ziggler est censé être face. En tout
Voilà.
cas, il est plus face que Ambrose. Mais ou alors double turn de heel.
Ouais. Il n'y a plus de face à
Il y a plus de
SmackDown,
face, c'est
donc il n'y a
fini.
plus que John Cena, au
Ouais.
grand plaisir d'un certain Giscal qu'on ne nommera pas.
Ah là là, Giscalou. Mais donc oui, je suis curieux. C'est encore, tu vois. Il s'est pas passé grand chose au niveau de. Enfin, de toute façon, il pouvait pas rajouter grand chose à cette histoire
Ouais, pour le coup, elle
qui est
est,
déjà
voilà,
faite.
elle est
Mais
construite, hein.
rien que ce petit truc, en fait, ça me fait me poser des questions. Peut-être que je me pose trop de questions sur ce genre de choses. Mais voilà.
Après, le fait qu'il lui porte le Dirty Deeds, c'est aussi en réponse au super kick qui s'est pris en début de show.
Ouais. Ouais.
Bon, peut-être que ça va pas plus loin que ça, quoi, mais
Après le super kick, il est accidentel, non? C'est pas ça.
ouais. Bah oui, mais bon, il a pas dû trop aimer de se manger un super kick quand même, quoi.
De toute façon, il n'y a rien d'accidentel, hein. C'est la règle de la WWE, hein. Dès qu'un mec se prend un truc par accident, il en veut à fond au mec qui n'a rien fait.
C'est ça. Vaut mieux y aller franchement avec avec la préméditation derrière plutôt que d'y aller accidentellement en vérité. Mais pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas ils ont pas foiré le truc quoi. Ça démarre bien et ça reste dans la lignée. Donc ça c'est au moins ça c'est bien. Du coup, on a envie de voir la suite. Après, bon, plus ça va. Moi, je pense que Ziggler a ses chances, mais bon, on va pas faire de pronostic aujourd'hui, je pense. Et sinon, bah ouais, j'étais agréablement surpris, pardon, par Rohan, Eric Rohan, que tu es plutôt pas mal. Il faudrait qu'il lui change son accoutrement un peu là. Ça fait longtemps qu'il l'a. Ce serait pas mal s'il le changeait. Et puis Bray Wyatt, bon, je pense qu'il est encore un petit peu limité par sa blessure là, la cheville, mais voilà. Bah, du coup, je sais pas s'il a
c'est vrai,
au programme de.
c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça en fait. On pensait qu'il serait pas là la semaine qui suit, vu que il avait cette histoire de foulure ou je sais plus si
Ouais,
c'était.
mais il a dû apprendre à catcher avec une cheville en vrac, visiblement. Ouais, je pense qu'il a pas envie d'être mis sur le côté, hein, Bray Wyatt. Hein. Je pense qu'il
Ah
va rester
bah
dans la course. C'est que voilà, parce que s'il disparaît maintenant, ça va être chaud pour lui de revenir. Faudrait pas que si c'est pas si grave que ça, entre guillemets. Voilà, je pense qu'il va rester dans la course et essayer de se vendre au maximum. Mais ouais, pour le coup, c'était un bon main event, quoi.
Voilà, voilà.
Voilà, voilà. Alors, bah, je pense qu'on va passer au mot de la fin.
Ouais.
Les notes, les tops, les flops. Et donc, priorité à toi, Hank, hein, du coup.
Priorité, je suis le seul chroniqueur.
C'est ça.
Et ben, je mettrai à ce SmackDown, j'hésite entre 2,5 et 3. Je sais que toi tu vas mettre 2,5. Je le sens, je le sais. Comme dirait Céline Dion. Donc 3, allez, je suis gentil. Je suis gentil. 3 parce que.
Vas-y.
Alors, le top. Le top, le top, le top. Le top, c'est. Ouais, c'est le passage Eva Marie Alexa Bliss. Moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit. Tiens, ils arrivent à bien gérer le peu de talent dont ils peuvent se servir dans la division féminine. Ils s'en servent bien. Alors bien sûr, après on a une séquence Natalia Carmella qui est juste, enfin voilà. Mais voilà, c'est le peu qu'ils ont, ils s'en servent très bien. Et le flop, bah non, mais ça va être justement Carmella. En fait, Carmella, elle va être dans mon flop toutes les semaines.
Ouais, c'est bien parti pour ça. Hein. ouais, non, bah moi je vais être comme toi, je vais mettre un 3. Parce que 2,5, ça veut dire que c'était moyen.
Ouais.
C'était mieux que moyen quand même. Dans les tops, alors du coup, je vais mettre Heath Slater, tiens. Parce que finalement c'est vraiment sympa et dans les flops ben Carmella aussi hein, parce que c'est vraiment ce qu'il y avait de moins bien dans le show.
Et je trouve juste
Dis-moi.
une petite remarque au moins enfin c'est vraiment dommage que de toute façon ils sont piégés dans leur format à Monday Night Raw parce que voilà ils ont besoin des revenus publicitaires et tout ça mais et qu'ils ont un deal avec la chaîne et que voilà, je pense pas que la chaîne veut arrêter ce deal-là, USA Network. Mais mais SmackDown c'est tellement plus plaisant à regarder. Enfin, je veux dire, il y a peut-être un ou deux moments moins bien que on a envie de zapper, mais qui durent peut-être 2 minutes, quoi. Mais sinon c'est tellement plus agréable à regarder. On sent qu'il y a pas de choses. Il n'y a pas de choses forcées en fait dans SmackDown. Il n'y a pas de moment où on se dit putain, ils sont en train de tirer le truc pendant 3 heures ou alors ils sont en train de nous faire bifurquer une storyline avec un mec qui a rien à voir juste pour rallonger le truc, etc. C'est vraiment non seulement le format mais aussi l'écriture qui est meilleure.
Et surtout que là, il manquait beaucoup de superstars. Hein. Cena, AJ Styles,
ouais.
Apollo Crews, je crois que le Miz il devait même pas être là parce qu'à mon avis c'est des trucs enregistrés et ils ont fait quand même un très bon show malgré ça. Hein. Donc voilà, bah oui. Hein. Après, bon, le fait que ce soit plus court, hein, forcément, ça joue. Hein, depuis le temps qu'on dit que Raw c'est trop long, bah, ça reste trop long, Raw. Hein. Tandis que, voilà, heureusement qu'ils ne sont pas passés à 3 heures SmackDown. Hein. Du coup, voilà, effectivement, c'est tellement plus plaisant à regarder. Alors pour bifurquer sur Raw rapidement, s'il faut vraiment qu'ils intègrent les Cruiserweight, à partir de là, je pense que ça va redonner quand même pas mal d'intérêt à Raw et on va éviter pas mal de segments de merde. Hein. Je pense que quand ils nous placeront enfin cette division Cruiserweight là, qui fait des très très belles choses, hein, le classique Cruiserweight là, c'est vraiment, il y a eu des matchs phénoménaux, hein, ça, la semaine qui est passée.
Je dois toujours regarder apparemment le très bon match Gargano Ciampa. Hein,
ouais. Excellent, excellent. Là, cette semaine, il y a eu aussi Kota Ibushi qui catchait contre Cédric Alexander. Là, c'était terrible, vraiment excellent. Il y avait que deux matchs là cette semaine, mais c'était deux très très bons matchs. Il y avait aussi Tajiri contre je sais plus qui, mais le match était vachement cool. Et le Gargano Ciampa, ouais, moi je trouve qu'on était pas loin du. Alors toi, t'avais pas trop aimé, mais le Owens contre Sami Zayn à Battleground, on était dans ces eaux-là. Hein. C'était magistralement exécuté et puis il y avait du la psychologie, il y avait du drame. C'était voilà, je vous conseille hein, si vous n'avez pas vu, jetez-vous dessus.
Ouais.
Cette semaine, voilà, hormis SmackDown, c'était pas mal. Raw, c'était à chier. Il fallait regarder le network, hein. Il fallait aller sur NXT, il fallait aller sur le Cruiserweight. La WWE, elle fait quand même des belles choses, même quand elle merde un peu son Raw. Hein. Voilà ce qu'il en est. Un petit mot à ajouter, peut-être ? Dernière chose ?
Quelle dernière chose ? Eh ben, n'oubliez pas qu'il y a un Bayley contre Asuka. Au prochain Takeover. Mince, c'est Takeover.
Takeover Brooklyn.
Brooklyn. Bah oui, c'est le deuxième Brooklyn. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le Takeover Brooklyn, le dernier, enfin celui qui date de la fin de l'année dernière, je crois. Regardez-le aussi, hein, parce que Takeover Brooklyn, c'est devenu. Maintenant, il va falloir faire aussi bien. Mais voilà, il y a un Bayley Asuka et ça va être bon.
Très belle affiche pour ce Takeover encore. Voilà, bah sur cette belle parole, l'émission se termine. Donc je vous rappelle qu'on peut nous retrouver donc sur YouTube, sur iCloud, PodCloud, sur iTunes, Mixcloud, pardon, iCloud ça n'existe pas, Kiri le Cloud, des trucs comme ça. Voilà, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker, venez nous rejoindre sur le site des Cahiers du Catch, sur le forum, on discutera avec vous. Venez donner vos avis, vos critiques, nous insulter, nous féliciter.
On répondra à vos commentaires avec 3 semaines de retard aussi.
C'est ça, exactement. Il y a un délai de réponse de 3 semaines. Voilà, et puis pour le reste, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine pleine de catch. Je vous dis à bientôt. Hank, dis au revoir à nos auditeurs.
Au revoir.
Au revoir. Et voilà, c'est fini. Des bisous. Ciao, ciao. À bientôt. Salut.